petit poème prose. C'était il y a longtemps, du temps où la pluie tombait, forte et même drue, fouettant le visage. Du temps où novembre se déchaînait et traitait les gens n'importe comment. Du temps qui faisait la tête et se payait en beaux mots. Ruines, crachins, cataractes et draches, averses, ondées, déluges, giboulées, bref, tout ce qui venait du ciel était béni des dieux. À moins que ceux-ci aient été traités d'eux-mêmes, ce qui ne pouvait leur faire plaisir. De toute façon, les humains n'étaient pas franchement à la fête. Pour les uns, c'était un mal de gorge, pour les autres, un petit cancer de rien du tout, genre cancer des poumons ou leucémie généralisée. Les troisièmes se traînaient comme des culs de jatte, et même si certains n'avaient rien, il fallait qu'ils fassent pareil que les autres. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, ils étaient tous malades. Il y avait sûrement sur cette terre quelque chose qui clochait, et à force de chercher, on trouva. C'était juste un truc autour de leur arrivée ici, un léger problème d'origine, de mythe fondateur. Le coup de la pluie, c'était pas mal, mais déjà pris. Le grand bateau blanc, idem, et à chaque nouvelle idée, l'éveil d'un volcan. Zeus découpant des humains en plusieurs morceaux, ou encore cette histoire d'un héros et chef de tribu islandaise, un certain Lug dont on ne savait pas grand-chose, mais qu'importe, leur monde s'effondrait à chaque occasion. Et il fallait ajouter à leurs propres inquiétudes les persiflages des autres qui se traduisaient par des ricanements méchants. Alors les hommes cherchèrent, et à force de chercher, ils trouvèrent une explication qui répondait à toutes les questions possibles. Depuis combien de temps était-il ici et sous quelle forme? Quel culte rendait-il à leur divinité? Comment se manifestait-elle? Se signalait-elle par des marques préalables? Et à toutes ces questions, il pouvait répondre. Né d'un Dieu unique, créateur universel, père d'un Christ et affilié à un certain Saint-Esprit, là il fallait être un peu plus précis, et qui mit 7 jours pour créer le monde à son image. Premier jour, organisation d'une terre apte à recevoir tout ce qu'il mettait dessus. Deuxième jour, fabrication des éléments de base indispensables à l'élaboration des espèces. Troisième jour et suivant, création des différents genres qui renverraient à sa propre image. Puis le sixième jour, il douta. Qu'est-ce qu'il pourrait bien ajouter à ce monde? Tout y était, depuis les êtres les plus simples jusqu'aux plus complexes. Cependant, il manquait à son geste une finalité, un acte de pure gratuité qui lui permettrait d'affirmer sa totale liberté. Parce qu'il faut reconnaître tout de même que ce Dieu ne se contentait pas d'être universel, il était aussi de nulle part, de n'importe où, infini et tout-puissant, totalement bon, bref, absolu. Il avait toutes les qualités indispensables à une réussite parfaite. C'est à ce moment qu'il eut une idée de génie. S'il créait des hommes qui seraient presque lui, il vit là l'occasion de vérifier ce que les êtres humains feraient de leur liberté. Et hop, en avant pour cette nouvelle actualisation qui devait donner à Dieu un parfait contentement. D'abord, il prit de la terre et la façonna à son image, ce qui pouvait étonner dans la mesure où on ne faisait plus de différence entre ce nouvel homme et Dieu. Fort satisfait de son travail, il contempla son œuvre et s'en félicita, tout en songeant qu'il faudrait bien à ce petit homme une femme. Il détacha donc une côte de l'homme en fabriquant à partir d'elle un être humain tout semblable au premier. Sauf qu'elle, elle prenait de petites mines chagrines. Elle exagérait ses manières pour faire bien comprendre ce qu'il désirait. Elle allait même jusqu'à la coquetterie mutine, virevoltante et si expiègle que Dieu se demanda si sa décision était suffisamment réfléchie. Certes, il ne pouvait pas abandonner l'homme tout seul, et cette femme était en soi une excellente idée, mais il avait le sentiment qu'elle allait avoir un gros boulot à faire pour remettre cela dans le droit chemin. Dieu se défiait de cette deuxième créature, faite à son image, parce qu'il était convaincu que le mâle ne pouvait être du même sexe que le sien. On pouvait en déduire que Dieu était un homme au sens masculin du terme, sans en être véritablement bien sûr. Les humains descendraient tous de ce couple. Et il les nomma Adam et Ève. Le plus gros souci de Dieu venait de la question de la liberté, question douloureuse s'il en était, dans la mesure où il aurait fallu décider de cela avant la création de l'homme, et non après. Postérieurement, donc, il avait défini les conditions de sa propre bonté. Il ne fallait jamais transgresser la règle, la seule qu'il annonça avec des sanglots dans la voix, celle qui consistait à ne jamais toucher une pomme, n'importe laquelle d'ailleurs parmi toutes celles qui faisaient crouler le pommier sous la quantité de fruits portés par les branches. Là, on n'était pas sûr que la petite Minette résisterait aussi, et se promettait-il de revenir les voir assez souvent pour bavarder un peu, juste en passant. Par contre, Dieu, lui, manquait à sa promesse. Une fois sur deux, il avait trop à faire, une autre fois, il était fatigué, et il finit par ne plus y aller. Les visites de Dieu se faisant de plus en plus rares, Adam et Ève cherchèrent ce qu'ils pouvaient organiser pour se distraire. Ils essayèrent les jeux de société, puis les chansons dites religieuses. Cependant, ils tournaient toujours en rond. Un jour, Adam partit faire une promenade. Il s'était disputé avec Ève et il voulait réfléchir tranquillement dans son coin. Ève, de son côté, s'asseya à l'ombre du pommier. Il n'y avait qu'un seul pommier dans ce paradis, avec des pommes toutes rouges, bien rondes et appétissantes à souhait. Ève rêvassait. Au fond, pourquoi ne pas manger quelques pommes? Pourquoi en effet? Pas parce que Dieu le leur avait interdit. Certes, mais si on mangeait juste une ou deux, est-ce que ce serait un drame? Ève finit par s'endormir, et quand elle se réveilla, Adam était de retour. La discussion reprit de plus belle. Adam ne s'était pas calmé, et Ève, ayant dormi, n'avait pas la tête à ça. Mais ça, c'était quoi au juste? En fait, il s'embêtait, n'ayant rien à faire, et pour toute l'éternité, une éternité vide de sens, sans contenu ni forme, une éternité qui pouvait convenir à Dieu, mais pas à eux. Quel était le problème? Se demandait Ève. On peut peut-être jouer à cache-cache en se servant du pommier. Cela supposerait tout de même qu'on monte dans les branches et qu'on puisse se cacher derrière les pommes. Et s'il en tombait quelques-unes, on pourrait les manger en toute tranquillité. Dieu n'avait pas posé d'interdit sur les fruits à terre et on pouvait les croquer sans remords. La religion n'avait rien à voir ici. Le seul problème, c'était l'arbre lui-même. Il représentait toute la connaissance, normalement impartie à Dieu. Il fallait pas rigoler, parce que si Dieu s'en apercevait, le retour de bâton n'allait pas tarder. À force de câlinerie, de bouderie et autres petites manières qui faisaient craquer Adam, Ève l'emporta. Sans chanter gloire d'ailleurs, parce qu'elle avait très bien compris que les hommes. Là, elle se disposait que deux types d'hommes, Dieu et Adam, éternel, même s'il a fait construire l'image de l'autre, étaient susceptibles aussi de gamins coléreux. Ils se donnèrent une nuit de réflexion. Le lendemain matin, Ève avait déjà préparé le petit déjeuner. Une assiette pour chacun, un verre et une fourchette. Mais elle ne savait pas où elle avait rangé les couteaux. Toutefois, elle estimait qu'une pomme, se mangeant plutôt à la main, elle n'avait pas à s'en préoccuper. Voyant qu'Adam se levait, elle joua à la femme fatale, à l'amante en passant par la jeune fille naïve et même la maman. Elle voulait s'assurer qu'il n'avait pas oublié la promesse de la veille. Donc, en ce jour, ils décidèrent de leur avenir. Ce fut Ève qui, la première, monta dans le pommier, suivie par Adam, furtif comme si Dieu pouvait le voir. Elle grimpa sur le pommier et commença quelques cabrioles, sautant d'une branche à l'autre. Malheureusement, elle était gênée dans ses acrobaties par tous ces fruits. Elle décida alors de les faire tomber. Et après la pratique de ses activités, Ève décida qu'il était temps de descendre pour manger. Auparavant, elle voulut prendre ses bras son amoureux et le récompenser ainsi de ce qu'il n'avait pas oublié sa promesse. Ils se câlinèrent et multiplièrent tant les baisers qu'Adam sauta sur Ève. C'était en ce temps-là le moyen de faire l'amour, et rien, pas même Dieu, ne l'interdisait. Il suffisait que les deux en aient envie. À part ça, pas de naissance de bébé, ce qui aurait posé un léger problème au Tout-Puissant. Des anges, oh, il en avait plus qu'il n'en fallait. Il aurait bien fallu en supprimer quelques-uns, et comme tout, peintre, billet d'un trait de crayon, quelques petits culs potelés. Il était encombré par cette meute d'angelots dont les petites ailes s'activaient à porter sa robe, à remettre droit sa couronne, à frémir de volupté chaque fois où il semblait en favoriser un. Bel exemple de générosité, grommelait-il de temps à autre. Mais revenons à Adam et Ève. Ils avaient presque fini de croquer leur première pomme quand ils se virent tout nus. Comment? Ils ne s'en étaient jamais aperçus auparavant. Et que se passait-il? C'est vrai que pour faire l'amour, ils n'avaient pas besoin de se déshabiller. De toute façon, ils étaient nus. Mais tout de même. Et puis il y avait de nombreuses anomalies. Par exemple, ce truc qui te faisait voir toi, puis l'autre, et toi dans le regard de l'autre, et inversement. Toutes choses plus déstabilisantes les unes que les autres. Adam eut l'impression que les ennuis n'allaient pas tarder. Mais s'il se tournait vers Ève, il ne pouvait pas dire que ce n'était pas une sacrée ratine, que le coup de la pomme était une excellente idée, et qu'il se découvrait maintenant de vrais talent de poète, ce qui avait toujours été, non pas son ambition, mais une sorte de nostalgie. Si tant est qu'il puisse y avoir un manque chez un être créé par Dieu. La théorie de l'évolution n'avait pas droit de citer dans ce paradis sans limite. Chaque être y avait sa place pour l'éternité. Rien ne pouvait changer. Toujours est-il que Dieu apparut devant eux et découvrit sur-le-champ l'ampleur des dégâts. Alors, comme ça, ils avaient transgressé la loi divine. Ils avaient touché au pommier, et non content de cela, ils en avaient même mangé. Et combien? Demanda-t-il, comme si cette précision était déterminante. En tout cas, Dieu piqua une divine colère, et sans véritable raison, il les chassa du paradis. Vous n'avez plus votre place ici, tonna-t-il. Et à partir de maintenant, vous allez souffrir. Toi, Adam, tu devras travailler. Et toi, Ève, que je soupçonne d'être l'instigatrice de cet énorme scandale de lèse-divinité, tu accoucheras dans la douleur. Et en plus de cette nudité que vous venez de découvrir, vous connaîtrez l'envie, la cupidité, l'égoïsme. Vous vous battrez, vous serez jaloux, vous désirez la femme de l'autre. C'est bien un mec, celui-là, se disait Ève. Et pendant que Dieu égrenait tous les péchés que leur descendance allait connaître, Ève se réjouissait de toutes ces occasions qu'elle entrevoyait dans un futur très proche. Je vous promets l'enfer, ou à la limite le purgatoire, mais pour le paradis, c'est foutu. Pour vous en particulier. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Ah, c'est vrai, pardon, c'est moi. Quelle erreur ai-je commis pour être si peu écouté? Je savais bien qu'en créant cette Ève, j'introduisais le loup dans la bergerie, mais Adam avait tellement l'air d'un pauvre bougre. Ainsi bougonnait Dieu. Et pendant ce temps, Adam et Ève préparaient leurs affaires. Surtout Ève, d'ailleurs. On savait traiter les femmes à cette époque. Les assiettes, bien sûr, mais aussi toutes les babioles qu'un couple vivant ensemble depuis de très longues années. Là, Ève manquait d'outils de comparaison, pouvait accumuler au fur et à mesure du déroulement du temps. C'était si vrai que souvent Adam interrogeait sa copine. « Qui nous a offert cela ?» Et Dieu de rétorquer qu'en dehors de lui, il n'y avait personne d'autre, que tout ce qu'ils avaient leur avait été donné par lui, et que ça le faisait râler une telle ingratitude, et qu'il avait rudement bien fait en leur rendant visite aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, etc. Bref, ils furent chassés du paradis par ce Dieu courroucé dont le juste énervement provoquait les tremblements de toutes les créatures de la terre. La sortie proprement dite du paradis fut un peu plus laborieuse, dans la mesure où ni Adam ni Ève n'avaient fait jusque-là une telle expérience. Alors il fut intimidé, et même si Ève travaillait au corps son compagnon, ils eurent bien du remords à quitter ce lieu de félicité. Une fois dehors, ils s'aventurèrent et découvrirent un lieu où se poser. La température était différente de celle du paradis. Plein de choses n'avaient pas la même odeur, entre autres ce parfum suave qu'Ève ne pouvait plus supporter, et les couleurs n'avaient pas ces tons pastels propres au jardin de l'Éden. Ils décidèrent de faire l'amour, et là encore, ils constatèrent combien les différences étaient grandes. Ils ressentirent une vive jouissance, suivie d'un repos bien mérité, auquel succéda les confidences les plus intimes et les décisions les plus réfléchies. Après cet intermède, ils tournèrent un peu en rond, puis Ève prit les choses en main. Premièrement, faire une maison, ensuite fabriquer le minimum à mettre dans la dite maison et trouver du travail pour Adam. Il n'était pas question qu'Ève se mette au boulot. Elle allait devoir s'occuper du lieu dans lequel ils allaient vivre. Ça posait un petit problème à Adam, qui n'avait pas bien compris que la perte du paradis allait de pair avec la nécessité d'aller travailler. Mais Ève lui expliqua qu'ils allaient devoir s'activer depuis que Dieu les avait chassés du jardin idyllique dans lequel ils étaient enfermés pour l'éternité. Après quelques mois, Ève eut les os, et elle glapissait comme un cochon qu'on égorge. Adam eut beau la rassurer, rien n'y faisait. Elle s'escrimait à pousser de hauts cris, à réclamer sa mère, qu'elle n'avait jamais vue et pour cause, à hurler contre tous les saints même, s'il n'en avait pas encore. Dieu l'avait bien menacée d'un tel accouchement éprouvant, dans la douleur donc, mais s'en était accommodée à l'avance. D'une part, elle avait eu le temps d'imaginer les souffrances les plus terribles, et d'autre part, elle estimait que c'était pour la bonne cause. Elle partait du principe que la fin justifiant les moyens, il n'était pas question de remettre en cause l'extraordinaire arrivée d'un enfant. Donc, sans cesser de brailler, elle mit jour à un délicieux petit être tout fragile qu'elle nomma après bien des discussions comme elle et Adam, Soumia. Évidemment, ce prénom constituait un véritable anachronisme dans la mesure où, à cette époque, on ignorait tout de l'islam. Ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs, puisque Dieu est Dieu et que personne n'en connaissait d'autre. Il aurait fallu prendre en compte les dénommés Allah, qui est Dieu lui aussi, et pourquoi pas cet éternel que les Juifs avaient adopté depuis fort longtemps. Bien sûr, tous ces dieux uniques compensaient le déficit de Zeus, Lug et autres pluies diluviennes qui ne traitaient le problème qu'au cas par cas. Mais Dieu s'était fourvoyé dans un drôle de paradoxe. Il interdisait la vengeance et lui, il se la récupérait pour en menacer ceux qui ne suivaient pas ses enseignements. Gonflé, le gars, l'enfer, ce n'est pas rien. Et c'est disproportionné par rapport à la faute. Comme vengeance, il ne pouvait pas mieux faire. L'enfer, ça durait une éternité tout de même. Ainsi Ève réfléchissait-elle en berçant la petite Soumia qui gigotait déjà dans ses bras. Mais somme toute, elle n'était pas mécontente de cette décision prise quelques mois auparavant. Au moins avait-il la possibilité de choisir ce qu'il voulait faire et connaître, et ça, c'était de leur fait. C'était beaucoup moins barbant que l'éternité, ce temps sans fin ni commencement que Dieu leur avait imposé sans leur demander leur avis. Il est vrai que ce bonnet d'Adam n'avait pas vraiment contesté, et il s'était retrouvé éternel sans l'avoir vraiment voulu. On dira peut-être que derrière elle, il y avait le serpent, mais pour le coup, Ève revendiquait ce statut de contestataire qui lui avait permis la violation de la règle divine. Ce péché de connaissance, elle l'avait accompli ouvertement, sans se cacher de Dieu, qui n'avait pas besoin de venir faire un tour au paradis ce jour-là. Et puis même, il n'avait pas à les foutre à la porte comme ça, et il aurait pu leur laisser la possibilité de revenir de temps à autre pour se reposer. Là, c'était de l'expéditif et du définitif. Voilà justement Adam qui rentrait du boulot. Il n'avait pas l'air particulièrement content de son sort. Le patron l'avait engueulé pour une brouille. Le tout a été monté et ça s'était soldé par un avertissement. Alors, contente de cette histoire? Quelle raison avait-elle à donner à cet exil forcé, de cette exclusion du paradis? Et à quoi sert cet accouchement dans la douleur, surtout si c'est pour ne pas avoir de quoi nourrir l'enfant? S'écriait-il dans une colère faisant trembler les murs de la maison. Ainsi, ils se disputèrent, puis se réconcilièrent sur l'oreiller, et se disputèrent de nouveau, etc. Cette alternance de rythme dans leurs amours et leurs haines avait l'immense avantage de leur faire oublier leur origine commune. Les hommes, dans leur quasi-totalité, ne croyaient plus en rien. Les incroyants refusaient de croire. Les athéistes niaient l'existence d'un Dieu personnel. Les agnostiques affirmaient que ce qui est au-delà des données expérimentales était inconnaissable. Et les panthéistes soutenaient que Dieu était la somme de tout ce qui existe. Il y avait bien quelques récalcitrants qui se souvenaient de Dieu, mais c'était plus sporadique qu'autre chose. Les femmes et les hommes de ce temps-là, soumis à des tempêtes et des non-rois, fatigués et trop souvent malades, étaient maintenant heureux. Bon, ils ne s'en rendaient pas compte pour la plupart, mais tous étaient fiers d'avoir pour ancêtre un Adam et une Ève. Bien évidemment, il n'y avait pas trop de différence entre tous ces dieux, mais l'honneur était sauf. Eux aussi avaient un beau mythe à proposer à ceux qui se moquaient d'eux. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est la notoriété que ce dieu-là aurait au cours des siècles à venir. Il allait très vite entrer en concurrence avec le dieu des Juifs, puis avec le dieu des musulmans, et ça faisait comme une sorte de trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Première parole de ce Dieu qui faisait à l'avance la synthèse des trois. Le Père, Dieu des Juifs, le Fils, Dieu des chrétiens, le Saint-Esprit, Dieu des musulmans. Rudement bien goupillé, pour un être dont personne depuis la nuit des temps ne pouvait prouver l'existence.